Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, 13e session de la conférence de gouverneurs. La journée d'hier mercredi était consacrée à la présentation de l'état des lieux des recommandations de la 12e conférence tenue à Kolwezi. Le taux global d'exécution des recommandations issues de cette 12e session a été estimé à 74% au deuxième jour des travaux. L'effondrement du pont Kambululu au sud Kivu perturbe les échanges de produits de première nécessité avec la ville de Bukavu. Le manioc, le haricot ainsi que diverses variétés de bananes habituellement acheminées vers le marché de Bukavu deviennent de plus en plus rares. Chaque année, le monde célèbre le 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Kasaï oriental cette année, aucune activité officielle n'a été organisée. Pour en parler, nous recevons le docteur Marcel Kazadi dans un entretien avec Esther Ndalafina. Encore une fois, bonjour à tous. 13e session de la conférence des gouverneurs. Sachez que la journée d'hier, mercredi, était consacrée à la présentation de l'état des lieux des recommandations de la 12e session de la conférence tenue à Kolwezi dans le Lualaba. Le taux global d'exécution des recommandations issues de la 12e session a été estimé à 74% au deuxième jour des travaux. C'est le rapporteur général de la conférence des gouverneurs, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la sécurité et de la décentralisation et des affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Louko, qui l'a annoncé mercredi. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irungmouchi.
Afin d'établir l'état réel d'avancement en prélude à la 13e session de la conférence des gouverneurs. Au premier point, nous avons l'état global d'exécution des recommandations de la 12e conférence. L'évaluation actualisée fait ressortir les résultats suivants. En ce qui concerne les recommandations totalement exécutées, nous en avons 5 qui représentent 9%. Les recommandations en cours d'exécution, nous en avons 36, ce qui représente 65%. Les recommandations non exécutées, nous en avons 13 qui représentent 24%. Et recommandations devenues caduques, nous n'en avons qu'une seule qui représente 2%. Le taux global d'exécution des recommandations est estimé à 74%. Ces résultats indiquent que la grande majorité des recommandations a été effectivement engagée, même si plusieurs d'entre elles relèvent de projets structurants à caractère pluriannuel dont la mise en œuvre se poursuit jusqu'au-delà de 2026.
Et puis le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre appelle à une mobilisation renforcée pour la protection de l'enfance et la sécurité des humanitaires. Gilles Fagnignon a conclu une visite de 5 jours en République démocratique du Congo. Dans un communiqué, il a alerté sur l'aggravation de la crise de la protection de l'enfance et la multiplication des menaces pesant sur les travailleurs humanitaires dans un contexte d'escalade de la violence dans l'est du pays. Au cours de sa mission, M. Fagnignon a rencontré les autorités gouvernementales et en marge s'est également entretenu avec les représentants de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Le point avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
Selon le communiqué, plus de 7 millions de personnes sont déplacées dans l'est de la RDC, dont 2,5 millions d'enfants. En 2024, près de 4 000 violations graves des droits de l'enfant ont été recensées, les enfants représentant plus de 40% des victimes de violences sexuelles. Les attaques contre les écoles, les structures de santé et les infrastructures civiles continuent de se multiplier, privant les enfants de sécurité et des services essentiels. La violence affecte également de plus en plus les opérations humanitaires. En 2025, plus de 626 incidents affectant les acteurs humanitaires ont été recensés à l'échelle nationale selon OCHA. Les attaques contre contre les travailleurs humanitaires ne vise pas seulement les personnels d'aide, elle vise les enfants et les familles qui dépendent d'une aide vitale, a déclaré M. Faninou. Chaque fois qu'un accès est bloqué, ce sont la nourriture, l'eau et les médicaments qui n'atteignent pas ceux qui en ont le plus besoin. M. Faninou a souligné l'importance de mettre en œuvre les principes du droit international humanitaire tout en plaidant pour un accès sûr et sans entrave aux lignes de front afin de garantir la continuité de l'action humanitaire.
En Ituri, les activités sont à l'arrêt depuis près d'une semaine au centre de santé de référence des Dala dans les territoires de Djougou. Des patients ont abandonné leur lit. À l'origine de cette situation, l'insécurité persistante marquée par des affrontements réguliers entre les militaires de FARDC et les éléments du groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP. Des sources locales accusent les forces loyalistes d'entretenir un climat de peur, poussant plusieurs habitants à se réfugier en brousse où ils sont exposés aux maladies. Des allégations que l'armée rejette. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le centre de santé des références de Dala, qui dessert plus de 100 000 personnes, fonctionne aujourd'hui au ralenti. Selon des sources sanitaires, la plupart des malades hospitalisés ont quitté précipitamment leur lit pour fuir les violences dans la zone. Toujours selon ces sources, certains militaires assimilent les civils aux miliciens, ce qui alimente la méfiance et la peur au sein de la population. Des actes de sabotage par l'armée visant l'établissement sanitaire où des vitres auraient été détruites par balles sont également rapportés. Conséquence directe, le centre de santé est presque désert. De nombreux habitants réfugiés en brousse recourent désormais à l'automédication qui expose leur vie à des sérieux risques. Sur le plan financier, la baisse de fréquentation entraîne une chute des recettes rendant difficile la prise en charge des rares patients, y compris des militaires blessés au front qui y sont admis. Contacté, le porte-parole de l'armée en Ituri rejette ces accusations qu'il qualifie d'infondées. Le lieutenant Jules Ngongo affirme toutefois que depuis la reprise du contrôle de la zone par les FARDC, un retour progressif des populations est observé. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Capi.
Sous les applaudissements d'une large majorité d'États membres, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce mercredi 25 mars une résolution qualifiant l'esclavage et la traite transatlantique des esclaves africains de plus graves crimes contre l'humanité, malgré l'opposition catégorique des États-Unis et les réserves exprimées par les pays européens, notamment quant aux implications juridiques de ce texte. Porté par le Ghana au nom du groupe des États d'Afrique, le projet de résolution fruit de mois de consultations et de recherches de consensus menées par des instances continentales, des nations, des experts, des universitaires et des juristes, selon son rédacteur, a été entériné par 123 voix sur 3 contre et 52 abstentions. D'autres détails avec vous, Alain Irung Mouchinge.
L'adoption de ce texte constitue un rempart contre l'oubli et vise à affirmer la vérité et tracer la voie vers la guérison et la justice réparatrice, a souligné le président du Ghana, John Dramani Mahama, en cette journée internationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. La résolution déclare que la traite des Africains réduits en esclavage et l'esclavage racialisé des Africains sont les plus graves crimes contre l'humanité. Elle déclare en outre qu'il importe de remédier aux torts historiques subis par les Africains et les personnes d'ascendance africaine et souligne que les demandes de réparation sont un pas concret vers la réparation de ces torts. Pour leur part, les États-Unis ont exprimé leur objection quant au concept de justice réparatrice au titre des torts historiques. Le Royaume-Uni a pour sa part mis en garde contre toute velléité de hiérarchisation des atrocités historiques, estimant qu'une telle approche simplifierait des réalités complexes marquées par des souffrances profondes. À l'instar de l'Union européenne qui s'exprimait par la voix de Chypre, elle a toutefois exprimer des réserves sur les implications juridiques du texte, notamment quant à une possible application rétroactive du droit international.
Je le disais en titre, l'effondrement du pont Kambouloulou sur la rivière du même nom, dans les territoires de Calais et au sud Kivu, perturbe les échanges de produits de première nécessité avec la ville de Bukavu. Le produit maraîcher, le manioc, le haricot, ainsi que diverses variétés de bananes habituellement acheminées vers le marché de Bukavu deviennent de plus en plus rares. Un reportage de Jean Kassami.
Le pont Kambululu sert de charnière entre les territoires de Kalehe et les deux principales villes de consommation, Bukavu et Goma. De même, le produit manufacturé qui desservait les territoires de Kalehe en provenance de ces deux villes susmentionnées se raréfie davantage, témoignage d'un habitant.
Ça cause une prix non abordable telle que une mesure de farine de manioc qui est à 500 francs congolais se va à 1500 francs congolais. La famine dans plusieurs ménages, suite à la pluie qui est en train de pleuvoir chaque jour et qui cause des dégâts dans la route numéro 2 Goma-Bukavu.
Les bénéficiaires du pont Kambululu, de part et d'autre, expriment un seul désir, celui de la réhabilitation de cette infrastructure d'intérêt commun. Les travaux nécessitent de gros moyens, renseigne Benjamin Mungazi.
La nouvelle société civile alerte et demande aux autorités compétentes du gouvernement, aux personnes de bonne volonté, aux ONG, aux organisations gouvernementales et non gouvernementales telles que PAM, FAO, Croix-Rouge, Fonds Social, Actes de Caractère, c'est tous de venir en aide de la population du territoire de Kalehe.
En attendant, la crise économique continue à peser sur le vécu quotidien des populations bénéficiaires du pont Kambululu. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Ce journal se poursuit dans la province du Kasaï central où la pluie tombée mercredi a causé la mort d'une femme enceinte dans la localité de Savenkas au quartier Kamai dans la ville de Kananga. La victime a trouvé la mort dans un ravin à la suite d'un affaissement des terrains survenu après l'adverse. Ce ravin est alimenté par les eaux de ruissellement provenant en grande partie de la route nationale numéro 1 en cours de modernisation par l'entreprise Safrimex sur les tronçons compris entre l'aéroport de Kananga et le rond-point Notre-Dame. Face à cette situation, la population appelle les gouvernements provincial et central à s'impliquer afin que ces eaux soient correctement orientées pour éviter d'autres drames dans les jours à venir. Reportage d'André Katende Ngalamouloumé.
Selon les témoignages recueillis sur place, inquiète de l'avancée d'une tête d'érosion qui menaçait les habitations environnantes, la victime s'en était approchée pour en constater l'évolution. C'est à ce moment que le sol s'est soudainement dérobé sous ses pieds et l'a englouti. Les riverains l'ont rapidement extirpé des décombres avant de la transférer en urgence dans une structure sanitaire de la place. Mais malheureusement, la jeune femme a succombé. À en croire Benoît Bilanganaï, conseiller communal de la commune de Kananga, ce ravin est alimenté par les eaux des caniveaux construits par l'entreprise Safrimex, chargée des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1. Il plaide pour une implication urgente des gouvernements central et provincial afin d'éviter de nouveaux drames.
Nous lançons un cri d'alarme au gouvernement pour qu'il puisse d'abord prendre des mesures pouvant protéger toute la population de ce coin. Au cas contraire, s'il y a une autre pluie, ça sera catastrophique.
Cette femme enceinte est la deuxième victime en l'espace d'un mois à Kananga après une tragédie similaire survenue dans la commune d'Indesha. Kananga, André Katende Ngalamouloumé, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, environ 700 personnes ayant participé à la campagne de distribution des masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action réclament toujours leur paiement dans la zone de santé de Kindu. Selon ces prestataires, depuis la clôture de l'opération en décembre dernier, aucun d'entre eux n'a été rémunéré. Ils affirment avoir perdu tout espoir de l'être. Après avoir épuisé toutes les démarches au niveau local, ils sollicitent désormais l'implication des autorités compétentes afin que leurs droits soient enfin reconnus. À ce sujet, Chabani Mutolo Richard, président de l'Union de communautés de développement de santé ICIDESA de la zone de santé de Kindu, s'est exprimé au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons travaillé depuis l'année passée, au mois de décembre, dans la campagne de masse de moustiquaires. Nous sommes au nombre au moins de 700 personnes dans la zone de santé de Kindu. Mais malheureusement, avec notre partenaire IMA et Sanri, les gens ne sont pas encore payés. Et puis, il n'y a pas de solution ni promesse par rapport à ça. Nous sommes vraiment impatients par rapport à cette histoire-là. Alors, nous sommes en train de réclamer ou bien tendre nos mains aux autorités qui sont en train de nous suivre. Vraiment, pas de faire un effort pour que chaque personne puisse être rétablie dans ses droits. Et puis, nous sommes en train de regretter. Parmi nous, il y a ceux qui doivent bénéficier, par exemple, $49, les distributeurs et enquêteurs. À part ça, il y a les chefs du village qui devraient bénéficier $15 comme forfait. Et il y a aussi les coordonnateurs et superviseurs qui n'ont pas encore eu cet argent. Alors, nous demandons vraiment l'implication. Parce que jusqu'au moment où nous parlons, il y a un climat vraiment malsain dans la zone de santé de Kindu. Même le médecin chef de zone n'est pas à la hauteur de nous donner la solution. Vraiment, l'implication du gouvernement est vraiment indispensable.
Contacter le responsable de Sanrou au Maniema apporte des garanties. Il affirme que les bailleurs, le Fonds mondial, a déjà donné son accord. Depuis mercredi soir, les prestataires ont commencé à recevoir les codes leur permettant de retirer leur argent auprès de l'agence des transferts Soficom. Au Nord Kivu, avant d'aller plus loin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, a lancé depuis lundi la distribution d'une nouvelle variété de semences améliorées des haricots dans les territoires de Lubero. Cette campagne vise au moins 1000 coopératives agricoles, associations et cultivateurs individuels dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Objectif, augmenter la production agricole locale. L'inspecteur de l'agriculture dans les territoires de Lubero parle d'une campagne qui répond aux besoins de la population, la saison culturelle étant encore en cours. Angui Massinda s'exprime.
La semence vient après nommer. Je dirais que nous sommes encore dans la saison et que c'est un appui pour nos producteurs agricoles qui sont nécessités. Les bénéficiaires sont les membres de structures. Donc Lubero a une population qui s'est déjà structurée en coopérative, en association locale, mais aussi en ONG locale. On a desservi plus de 1000, y compris les cultivateurs indépendants. Pour ce qui concerne cet appui, c'est une semence, une nouvelle variété, des haricots. Les haricots, c'est un aliment de base à Lubero. D'ailleurs, c'est sur l'ensemble de la province, c'est un aliment de base. Donc, à vrai dire, c'est une action qui est saluée par la communauté, y compris les autorités, parce que c'est une action qui va toucher la plupart d'entités sous contrôle du gouvernement. Et surtout que c'est une variété nouvelle, nous allons observer tous les stades de l'évolution de la culture pour faire rapport à la hiérarchie.
Actualité internationale.
Au Soudan du Sud, il y a un an, le premier vice-président du pays, Riek Machar, était arrêté et placé en résidence surveillée, faisant voler en éclats un accord de partage du pouvoir. Aujourd'hui, l'opposant est toujours détenu, son procès est en cours. Et 8 ans après la fin de la guerre civile, le pays menace de sombrer à nouveau dans le chaos. Au 27e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans toute la région. C'est jeudi 26 mars, Israël et les Émirats arabes unis ont indiqué répondre à des attaques des missiles iraniens tirés en direction d'Israël. L'État hébreu a affirmé avoir tué les chefs de la marine des gardiens de la révolution.
L'invité.
Chaque année, le 24 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC ». Sous l'impulsion du gouvernement et avec le soutien des communautés au Kasaï oriental, aucune activité officielle n'a été organisée. Toutefois, la coordination provinciale de la lèpre et de la tuberculose rapporte avoir enregistré l'année dernière plus de 24 200 cas, dont plus de 3 800 enfants atteints. À cette occasion, elle adresse un message à la population. Toute personne présentant une toux persistante est invitée à se rendre dans un centre de santé pour effectuer un examen de crachat. La coordination rappelle que la tuberculose est une maladie guérissable grâce à un traitement disponible et gratuit. Le docteur Marcel Kazadi s'est entretenu avec Esther Ndalafina.
Bonjour, docteur Marcel Kazadi.
Bonjour.
Aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée de lutte contre la tuberculose. Et quel est le thème de l'année?
Le thème de l'année, c'est « Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC sous l'impulsion du gouvernement avec le soutien de nos communautés ».
Pourquoi aucune manifestation n'est organisée au niveau de la province du Kasaï oriental?
En fait, dans le temps, on faisait des manifestations quand on avait des partenaires qui nous supportaient pour réaliser ces manifestations. Mais maintenant, On travaille vraiment dans des conditions un peu pénibles, sans financement, avec tous ceux qu'on avait comme partenaires depuis que l'USAID avait arrêté ses activités. C'est ainsi que nous nous plaisons maintenant à pouvoir sensibiliser quand même les leaders d'opinion, nos autorités, ainsi que la communauté, pour qu'ils sachent qu'il y a un traitement qui soigne la tuberculose. Si quelqu'un peut attraper la tuberculose et rester en famille, ce n'est pas bien. Il faut que cette personne se présente au niveau de nos centres pour faire examiner ses crachats. C'est gratuit. Et si on trouve que dans ces crachats, il y a ces microbes ou les bacilles qui provoquent la tuberculose, il aura aussi un traitement gratuit. Et ce traitement est efficace. Il guérit la tuberculose.
Où se trouvent donc les centres qui examinent les crachats?
Les centres qui examinent le crachat, il y en a dans toute la province, dans le milieu urbain ou même dans nos zones de santé rurales. Nous en avons pour le moment 136, mais sachez que dans chaque zone de santé, il y a au moins 7 à 8 centres qui soignent nos tuberculés.
Quelles sont les statistiques en rapport avec la tuberculose dans la province?
Je pourrais vous donner les statistiques de 2025, où nous avons pu détecter 24 219 cas de tuberculose sensible, c'est-à-dire qui répondent aux produits qu'on donne aux tuberculeux pour la première fois. Mais en plus de ces 24 219 sensibles, on a eu aussi 100 cas de la tuberculose pharmacorésistante, c'est-à-dire la tuberculose avec des bacilles qui résistent aux produits qu'on donne à ceux qui sont encore sensibles. En plus de cela, sur les 24 219 cas, il y a eu 3876 cas des enfants de moins de 15 ans.
Comment expliquer cela?
Bon, c'est la contamination. Quand un parent fait la tuberculose et qu'il ne se fait pas soigner, il va contaminer la famille. Les enfants ayant une immunité un peu faible par rapport aux adultes, c'est facile que ces enfants puissent aussi attraper la tuberculose.
Et alors, comment se protéger, docteur?
La protection, c'est de se faire dépister et recevoir précocement son traitement. Il faudrait porter des masques pour ne pas contaminer l'environnement, les gens qui sont autour de vous. Très prudent dès qu'on tousse, si on a un crachat, le faire examiner afin de pouvoir savoir si dans ces crachats, il y a le bacille qui provoque la tuberculose ou pas.
Et lorsqu'on se retrouve dans les endroits où il y a des fêtes, il y a des deuils, on ne sait pas exactement qui est malade et qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on peut se protéger, docteur?
Normalement, celui qui sait que j'ai été détecté tuberculeux, il doit prendre ces précautions-là, porter des masques pour ne pas contaminer l'entourage. Quand un malade est détecté tuberculeux, on le sensibilise pour ne pas contaminer l'encore. Il faut qu'il prenne bien son traitement. Au bout de 2 semaines déjà, il ne pourra plus contaminer des personnes autour de lui. Mais il doit quand même prendre des précautions de porter le masque quand il est dans l'entourage d'autres, des amis ou même quand il est à l'église, par exemple. Mais au bout de 2 semaines, une personne qui prend bien son traitement, au bout de 2 semaines, ne peut plus contaminer d'autres personnes.
Oui, docteur, vous avez dit que vous n'avez plus de partenaires. Et entre-temps, vous dites que le traitement est gratuit. Comment est-ce que la coordination parvient à obtenir les médicaments pour soigner gratuitement les malades?
Il y a des partenaires qui sont partis, mais nous avons le Fonds mondial qui continue à acheter les médicaments et à nous les envoyer gratuitement.
Docteur Marcel Kazadi, merci.
Merci, Maman Darafina.
C'était notre invité, le docteur Marcel Kazadi, qui s'entretenait avec Esther Ndalafina. Et c'est ce qui met fin à ce journal coordonné par Élisée Chikota Chivueta et supervisé par Alain Rongmochinge. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.